France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir un homme qui va nous aider, j'en suis sûre, à y voir un peu plus clair en cette fin de semaine marquée par un remaniement ministériel qui se fait attendre et par de nouvelles défections au Parti Socialiste. Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, spécialiste d'histoire politique, travaille depuis 50 ans sur les évolutions de la démocratie. Autant dire que c'est l'homme de la situation ce soir. Pierre Rosanvallon qui publie au Seuil « Notre histoire intellectuelle et politique 1968-2018 ». 400 pages de réflexion mais aussi de souvenirs car il n'a pas été qu'un observateur de ce demi-siècle écoulé. Il en a aussi été un acteur, partie prenante de ce qu'on a appelé la deuxième gauche, même si politiquement il n'a jamais franchi le Rubicon. Trop indépendant, trop curieux aussi sans doute, lui qui a été à la fois professeur, chercheur, éditeur, éditorialiste et j'en passe et des meilleurs. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, un reportage de Célia Quiré sur les ateliers participatifs mis en place par le haut-commissaire à la réforme des retraites et les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, le casting du métro ou comment la RATP choisit les musiciens autorisés à jouer dans les stations. À 19h20 au téléphone sonne, en attendant la fumée blanche au-dessus de l'Elysée. Cette question, et si on remaniait aussi la démocratie? Vos questions au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Pierre Rosanvallon.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir à l'issue d'une semaine dont on peine à voir le bout politiquement, alors on y reviendra. Mais d'abord, votre dernier livre publié au Seuil, son histoire, je le disais, c'est « Notre histoire intellectuelle et politique 1968-2018 », un livre assez personnel, car vous avez été à la fois observateur et acteur de cette période. Pourquoi avoir choisi 1968 comme point de départ? Parce que vous aviez 20 ans, 68?
Oui, j'avais 20 ans, 68, mais j'aurais pu dire les années 60, parce que 1968, c'est pas l'événement qui surgit du néant et qui, tout d'un coup, un beau mois de mai, change le monde et change la vision des choses. 68, c'est un point de fixation à l'intérieur d'une transformation générale des sociétés dans les années 1960. C'est à la fois les Trente Glorieuses, mais à la fois c'est la sortie des années de guerre. Pour toute la génération du baby-boom, c'est le moment où on devient adulte et c'est le moment aussi, après qu'une génération ait vécu la guerre d'Algérie, où on vit sans conflit, mais on découvre que la société de consommation n'est peut-être pas l'avenir radieux. Et donc, j'appartiens à une génération qui, dès qu'elle a eu 18 ans, disons pour faire vite, commencer à s'interroger.
Alors, je le disais, vous aviez 20 ans, vous étiez étudiant à HEC, à Jouy-en-Josas, dans les Yvelines. Vous alliez manifester à Paris, vous avez même participé à la création d'un comité ouvrier étudiant à Saclay.
Oui, parce que moi j'ai vécu un 68 à la base. Vous savez, aujourd'hui on parle de mai 68 comme la grande histoire bataille, où on ne met en scène que les grands généraux, les grandes manifestations publiques. Mais il y a eu un mai 68, on pourrait dire, ordinaire à la base. Là où j'étais, dans les Yvelines, eh bien c'était sur le plateau de Saclay, et il y avait cette école à laquelle j'appartenais, dans laquelle j'étais étudiant, et puis juste à côté, il y avait un centre d'études des propulseurs, qui était une entreprise relativement technique, et ces gens de cette entreprise se sont mis en grève en 68, et comme nous étions voisins, eh bien on s'est mis à discuter ensemble.
Surtout que vous aviez eu une première expérience du monde du travail en 67, si j'ai bien lu, vous aviez fait un stage d'OS chez Renault sur l'île Séguin.
Exactement, parce que à l'époque, en tout cas dans certaines grandes écoles, la tradition était de faire des stages en entreprise dès la fin de la première année. Et beaucoup allaient dans des bureaux, dans des choses. Je me suis dit, j'ai envie de découvrir la vraie société. Parce que j'avais lu un livre qui s'appelait « Militant chez Renault » de Daniel Mottet et qui racontait la vie ouvrière au jour le jour. Et j'ai eu envie d'aller voir par moi-même. Et c'est pour ça que j'ai fait ce stage de 2 mois chez Renault comme OS.
Et vous dites que cette expérience vous a amené à devenir étranger au monde étudiant.
C'est-à-dire que oui, le monde étudiant, surtout dans une école comme HEC, une école de commerce, il y a beaucoup d'étudiants qui pensaient beaucoup à faire la fête, ce qui est très bien, mais qui, grosso modo, vivaient dans leur petite bulle. Surtout que c'était un des premiers campus français, c'est-à-dire qu'on était bien installé au milieu des bois, la campagne, avec des beaux terrains de sport, et disons que ça n'était pas la vraie vie. Vous savez, à l'époque, il y avait un livre de Claire Etcherelli qui s'appelait La vraie vie. Et je voulais vivre la vraie vie et pas simplement vivre dans la bulle.
En tout cas, vous ne vous êtes pas attardé dans cette bulle, puisqu'en 69, vous avez rejoint la CFDT. À 21 ans, vous êtes devenu secrétaire confédéral attaché au secteur économique et vous êtes très vite devenu conseiller politique d'Edmond Maire, au cœur de la machine, au cœur du réacteur.
Oui, ça paraît absolument extraordinaire aujourd'hui de dire qu'un jeune étudiant de 21 ans arrive dans une grande organisation syndicale et puis qu'on lui confie immédiatement des responsabilités. Pour replacer dans cette époque, la CFDT avait été très proche des étudiants en mai 68. Tout un ensemble de conférences de presse de l'UNEF s'était déroulé dans les locaux de la CFDT. Et donc, moi, dès cette période-là, j'avais commencé à faire des études économiques pour la CFDT. Et au lieu de continuer, comme beaucoup de mes camarades, des études en faisant Sciences Po, en visant l'ENA ou en allant à l'université, j'étais impatient de rencontrer cette vraie vie, et c'est pour ça que je me suis tourné vers le syndicalisme.
Alors, il y a eu la CFDT, il y a eu aussi le PSU auquel vous avez adhéré.
Oui, 1969, c'est aussi l'année des présidentielles à laquelle Michel Rocard va se présenter, et là, j'ai été un colleur d'affiches, un distributeur de tracts.
Alors, cette histoire que vous racontez à Pierre Rosanvallon, elle n'est pas forcément toujours très objective, en tout cas, elle est sincère. Comment vous avez procédé? Vous avez fouillé dans votre mémoire, dans vos notes, dans les archives de l'époque, dans tout ce que vous avez pu écrire, parce que ça fait un bon bout de temps quand même,
oui,
que vous écrivez.
Bien sûr. J'ai écrit beaucoup de choses depuis cette période-là, mais aussi j'avais gardé des dossiers sur des moments importants, des dossiers concernant la rédaction de certains textes, des dossiers concernant la vie à l'intérieur de la CFDT, des dossiers concernant les lancements des revues ou des collections de livres auxquelles j'avais participé. Et au fond, je n'ai parlé de moi dans ce livre que pour rendre sensible un mouvement des idées. Parce que, vous savez, derrière les idées, il y a toujours des vies, tout court. Et des vies, ça veut dire des curiosités, des impatiences, des incompréhensions, des colères, et que c'est ce qui donne son sel aux idées. Parce que derrière la politique, vous savez, ça n'est pas simplement fait de grands combats. La politique, c'est aussi fait d'émotions. La politique, c'est aussi fait de sentiments. Et j'ai voulu, alors que je suis plutôt un historien ou un philosophe politique, objectif, plongé dans les livres, plongé dans les idées, j'ai voulu, avec ce livre-là, donner une coloration sensible à cette vie des idées pour que, au fond, ce qui ont été les enthousiasmes de certaines périodes, les explorations suivies parfois de désarroi, de période d'engourdissement, eh bien, ne soit pas simplement une succession abstraite de thèses ou de théories, mais qu'elle soit liée à une vie personnelle qui, au fond, n'importe que parce que elle a été aussi à l'image de la vie de centaines de milliers de personnes.
Alors, on reviendra évidemment sur le contenu de ce livre, Pierre Rosanvallon, mais on va passer, comme chaque vendredi, à l'actualité de la semaine. À présent, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Marie-Annick Rimbaud, une semaine marquée par le coup d'envoi de la future réforme des retraites et par un remaniement ministériel qui se fait toujours attendre 10 jours après la démission de Gérard Collomb. De quoi donner des ailes à l'opposition qui y voit un accès de faiblesse du macronisme.
Monsieur le Premier ministre, mardi dernier, vous étiez l'homme le moins bien informé de France. Votre ministre de l'Intérieur était en train de quitter le gouvernement et vous ne le saviez pas. En abandonnant ainsi le président de la République, il a mis en lumière l'étroitesse, pour ne pas dire le vide, de l'assise politique de votre majorité.
Comment vous dire, monsieur le président Jacob ? Il se trouve que dans notre système, la majorité est déterminée par des élections et que les élections donnent un résultat qui se voit ici et que je ne vois rien d'étroit dans cette majorité.
C'était mardi à l'Assemblée, une semaine après la démission de Gérard Collomb, toujours pas de remplaçant à l'intérieur. Alors Nicolas Dupont-Aignan s'impatiente.
Bientôt, on va passer des petites annonces dans les journaux, sur Internet, cherche ministre désespérément.
La majorité En Marche, elle, fait bloc. Le président du groupe, Gilles Legendre, allant même jusqu'à faire l'éloge de cette lenteur.
Mais c'est pas parce que c'est long que c'est douloureux. Il y a des bonheurs qui s'éternisent, vous savez.
Au même moment, dans la rue, des manifestations contre la politique sociale d'Emmanuel Macron et aucune illusion sur la portée du remaniement annoncé.
S'il y aura Macron et Philippe, ça ne va rien changer. La situation ne va qu'empirer. Les riches vont s'enrichir et les pauvres vont encore plus s'appauvrir.
635 euros j'ai par mois.
Les plus remontés en ce moment, ce sont les retraités.
J'ai travaillé, j'avais 15 ans. Jusque l'âge de 62 ans, j'ai travaillé. On a bossé toute notre vie. On ne peut plus sortir, on ne part plus en vacances, on ne fait plus rien, quoi.
Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
Un système de retraite universel, plus de justice, les mêmes droits pour tous, la fin des 42 régimes différents, ça c'est le principe affiché de cette réforme. Qu'en pensez-vous ?
Que du mal.
Comme ça, c'est clair. Pourtant, le haut commissaire chargé de la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, ne désespère pas de le convaincre.
Nous démontrerons à la CGT qu'elle exprime des inquiétudes qui ne sont absolument pas fondées. Notre souci, c'est au contraire de construire des espérances pour ce projet.
Dans 7 mois, les européennes. Cette semaine, Marine Le Pen est allée se faire adouber par Matteo Salvini en Italie.
C'est l'histoire avec un grand H qui va s'écrire au mois de mai prochain.
Nous avons l'honneur, comme dit Marine, d'être mise à l'épreuve du pouvoir et de montrer que ceux que l'on appelle les populistes sont meilleurs pour gouverner que les socialistes. Et ça sera bientôt le tour de Marine.
C'est encore Kylian Mbappé, le quadruplé de Kylian Mbappé. Ça fait donc 5 à 0 pour le Paris Saint-Germain.
De mémoire de footballeur, on n'avait jamais vu un tel feu d'artifice. 4 buts en 13 minutes marqués par un seul et même joueur lors du match PSG-Lyon. Mais pas de quoi donner la grosse tête à Kylian Mbappé.
7 occasions, 4 buts, 4 sur 7. Voilà, c'est pas mal, on peut faire mieux, mais voilà, il faut continuer.
Ouais, c'est pas mal. Didier Deschamps, lui, est bluffé.
Il y en a beaucoup d'autres, Kylian, mais lui, c'est Kylian Mbappé. C'est prodigieux ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire.
Hé, hey, Léon, c'est moi, Pascal, j'arrive.
Venantino Venantini vient de mourir à 88 ans. Il reste immortel dans les tontons flingueurs.
Qui est avec moi ?
Je suis avec le notaire.
Il me dit que vous êtes deux, vous êtes trois.
J'annonce les employés, pas le patron.
Possible, mais j'attends l'ordre de M. Raoul.
C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases.
Une semaine en France, toujours en compagnie de Pierre Rosanvallon. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine dans l'actualité, Pierre Rosanvallon ?
Eh bien, une partie de ce qui a été repris dans cette brève présentation. Et ce qui m'a frappé, c'est justement qu'on a le sentiment d'être bombardé par tout un ensemble d'événements, de situations, de perdre un petit peu pied. Et ce qui me semble important, c'est d'essayer dans ce bombardement de trouver les éléments de compréhension et d'analyse qui redonnent un petit peu sens à tout ça. Prenons par exemple les quelques remarques qui ont été faites sur la réforme des retraites et la discussion sans intermédiaire qu'il y a eu entre le représentant de la CGT et puis le commissaire aux retraites Delevoye. On voit bien là une chose essentielle du travail des démocraties, c'est de faire la part en permanence entre ce que sont les vrais conflits, les vrais différends, parce qu'il y en a, il y a des conflits d'intérêts, des différences, et puis ce qui sont simplement des incompréhensions. Et ça, je crois qu'une démocratie qui fonctionne bien, c'est une démocratie qui essaie de distinguer ces deux choses-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé cette semaine. Le travail à faire, c'est de dire ça sur la table.
Alors justement, puisque vous parlez des retraites, il se trouve qu'on a un reportage sur les fameux ateliers qui ont été mis en place par Jean-Paul Delevoye, justement, pour lancer cette réforme des retraites, puisque lui, il tape sur la concertation, il veut convaincre. Je vous propose d'écouter ce reportage réalisé par Célia Quiret à Toulon. C'était vendredi dernier.
Madame, je vous donne le micro.
Dans cette salle, face à la mer, face aux bateaux qui partent au loin, il y a des retraités qui protestent et surtout des quarantenaires qui se projettent dans l'avenir avec inquiétude.
On ne sait pas exactement comment ça va être calculé, donc forcément c'est un peu difficile d'imaginer le montant de la retraite dans le nouveau système comparé à l'ancien système.
Moi je suis juriste, j'ai un travail de bureau, je gagne bien ma vie. J'ai un ami qui est maraîcher, il travaille deux fois plus que moi pour gagner quatre fois moins. Le projet de réforme basé sur des points, eux-mêmes basés sur des euros, Je ne trouve pas ça juste pour mon ami maraîcher qui travaille beaucoup plus que moi et qui toute sa vie aura gagné moins. Plus on est riche pendant qu'on est actif, plus on sera riche à la retraite.
Et cette réforme est-elle nécessaire? Y aura-t-il des exceptions au sein de ce régime universel? Les questions fusent, mais les jeunes les plus concernés sont absents de ces ateliers, à quelques exceptions près.
Je me demande déjà si j'aurai une retraite, déjà d'une, et puis deuxièmement, oui, on va changer de président d'ici 40 ans. Je pense que ça ne sera plus M. Macron, donc j'aurai une autre réforme. Moi, je pense déjà à mettre de côté pour me faire ma propre retraite, si je peux dire ça comme ça.
Et à l'extérieur, quelques militants de la CGT du Var manifestent. Robin Magne se demande surtout quels seront les effets de ce système à points.
C'est très très inquiétant. Si la valeur du point est trop faible, la seule solution, ça va être soit de continuer à travailler, soit si malheureusement notre état physique fait qu'on n'a plus la possibilité de pouvoir travailler, malheureusement ça sera la pauvreté assurée. Se résigner à être pauvre, c'est pas acceptable.
Pour le moment, cette réforme crée plus de peur que d'enthousiasme. Le gouvernement défend un projet de société, il va falloir argumenter.
C'est évoluer dans une société où inégalité et précarité seront permanentes.
Un reportage de Célia Kiré. Pierre Rosanvallon, vous qui avez été un compagnon de route de la CFDT, on sait qu'il y a eu des réformes des retraites, il y en a eu plusieurs. Là, passer d'un système par répartition à un système par points, c'est un big bang. Qu'est-ce que vous en dites, vous ?
Ça reste un système par répartition. Le principe de la répartition, c'est que chaque année, les retraités perçoivent des cotisations qui proviennent des versements des travailleurs actuels. Donc le problème de la répartition n'est pas en cause. C'est très différent des systèmes de capitalisation. La capitalisation, c'est que chaque année, vous mettez de l'argent de côté et vous placez cet argent. Alors que là, le système de la répartition est d'un certain point de vue beaucoup plus juste, parce que le niveau général des retraites, il est déterminé par ceux qui sont actifs quand vous êtes retraité. Donc d'un certain point de vue, ce sont vos enfants qui vous ou vos petits-enfants qui vous financent. Le problème des points, aujourd'hui, il existait très largement dans les retraites complémentaires, mais il n'existait pas dans la partie ordinaire des retraites. Et c'est ça qui rendait le système à la fois peut-être un peu opaque et un peu injuste, parce qu'il y avait de grandes différences, et effectivement notamment entre les salariés et les non-salariés.
Vous en parlez comme si c'était déjà fait.
Mais ça n'est pas fait, la réforme. Et je veux dire, le problème, c'est on voit bien l'horizon vers lequel il faut aller, mais tout est problème de quel niveau de cotisation, quelle transition. Les retraites, vous savez, c'est toujours le problème de savoir qui paye pour qui. In fine, c'est cela qui est en cause. Et qu'est-ce que la justice redistributive entre les générations? Et donc, les grands principes, ils sont à discuter, mais après, je dirais, c'est l'ingénierie. C'est dans les détails que se cache le diable souvent, et c'est pour cela que la réforme des retraites n'est pas simplement un débat philosophique. Ça va être un débat très technique, mais il faut qu'à chaque moment, derrière les débats techniques, on voit bien que ce qui est en cause, c'est des problèmes de répartition, c'est des problèmes de solidarité, c'est des problèmes de lien entre les générations. Et l'expérience qu'il y a eu de constituer ces petits groupes sont intéressants. Mais évidemment, ils sont étroits. Ils sont intéressants. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que la démocratie se définit par le régime où il y a une discussion publique sur les choses. Et la discussion publique sur les choses, actuellement, elle est dominée par quoi ? Elle est dominée par les débats parlementaires, à travers les représentants, c'est quand même un cénacle limité, même si on lui donne de la publicité, et puis de l'autre part, la voix des sondages. Et maintenant, on dit un petit peu aussi la voix du web. Mais on voit bien qu'il faut qu'il y ait plus de caractère charnel dans la représentation. Et ce type d'atelier, parfois on appelle cela des conférences de citoyens, eh bien je crois qu'il faut les multiplier, les démultiplier partout, parce que c'est de cette façon-là qu'on ne définit pas simplement la démocratie comme le régime où on nomme ses représentants, mais comme le régime où il y a une véritable discussion publique vivante.
Et c'est peut-être pas par hasard que c'est Jean-Paul Delevoye qui est chargé de ce sujet, lui qui a été parlementaire, maire, président de l'Association des maires de France, et médiateur de la République. Il a sans doute retenu la leçon de cette époque-là. Sur l'actualité plus politique, au sens politicien peut-être de la semaine, Pierre Rosanvallon, ce remaniement qui tarde à venir, les défections au sein du gouvernement, comment vous analysez cette situation?
C'est une espèce de changement radical, parce que d'habitude, quand il y a des remaniements ministériels, les gens faisaient la queue pour être ministre. Et les gouvernants n'avaient que l'embarras du choix. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a un pouvoir majoritaire, mais ce pouvoir majoritaire qui n'a pas de classe politique autour de lui, qui a été élu par des novices, ce qui avait son bon côté rafraîchissant, mais ce qui se paye aujourd'hui du fait qu'il y a un déficit de vivier, si je puis dire, et un déficit peut-être aussi d'expérience collective, d'où cet air un petit peu très...
C'est-à-dire qu'on a surtout une machine à gagner les élections et aujourd'hui, ça manque de terrain, c'est un peu hors sol.
Mais ça, c'est un problème général. C'est qu'il faut des qualités différentes pour être assez bon pour gagner des élections et pour être bon pour gouverner. Ce qui a fait le succès d'Emmanuel Macron, c'est son caractère de jeunesse, dire qu'il va être au-dessus des partis ordinaires, dire qu'il ne va pas construire justement quelque chose de déjà enfermé dans une idéologie. Mais la faiblesse quand on gouverne, c'est de dire où est le cadre général dans lequel s'insère l'action et puis sur qui on va s'appuyer concrètement, où sont les compétences. Et ça, c'est une chose, un hiatus formidablement important dans les démocraties et formidablement problématique.
Parce que tout repose quand même sur le chef.
Tout repose sur le chef parce que, je dirais, la grande évolution que l'on voit et qui donne, on pourrait dire, partout dans le monde, une atmosphère de populisme. On parlera peut-être un petit peu tout à l'heure du populisme. Mais l'atmosphère de populisme, c'est la montée en puissance du chef dans les démocraties. Alors, cette montée en puissance du chef dans les démocraties, elle correspond à deux choses. Elle correspond au fait que le pouvoir exécutif est d'abord le pouvoir central. Avant, le pouvoir parlementaire, par définition, le Parlement, c'est une multitude, une multiplicité de personnes. Alors que le pouvoir exécutif, il a une certaine unicité.
Donc, ça veut dire que Macron, quelque part, c'est un populisme, non ?
Ben, disons qu'il participe de cette atmosphère populiste, mais populisme qui est dérivé du fait que le pouvoir exécutif est central. Mais populisme qui vient aussi du fait que les partis n'existent plus. Les partis politiques, c'était la politique qui partait d'en bas et qui peu à peu montait vers le haut. C'est des gens qui se réunissaient, qui élisaient des représentants et des délégués et qui, dans des congrès, choisissaient des dirigeants et dessinaient des projets. Aujourd'hui, c'est le chef qui décide ce qu'il faut faire. Et en quelque sorte, on peut dire que c'est une politique de l'offre qui vient du haut. Mais ça n'est pas simplement le cas de Macron. D'un certain point de vue, et lui-même l'a reconnu, c'est le modèle aussi de la France insoumise. La France insoumise, elle a un leader qui propose à la société un ensemble de changements. Bien sûr, il a un état-major autour de lui, mais ça n'est pas, il n'y a pas de démocratie de parti. Et ça, c'est une évolution considérable aujourd'hui. Les partis, avec le type de démocratie peut-être un peu lourde, mais le type de démocratie qui les constituait, n'existe plus. Et maintenant, c'est de la politique descendante du haut vers le bas.
Pierre Rosanvallon, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'état du Parti Socialiste, puisque aujourd'hui, non seulement il a quitté la rue de Solferino, mais on a appris effectivement la défection du député européen Emmanuel Morel. C'est pas vraiment une surprise, il était en désaccord avec la ligne depuis un petit moment. Mais il dit ce soir dans le Monde, ce n'est pas qu'un départ, c'est une scission. Il dit qu'il part avec beaucoup de monde, des élus locaux, des cadres, des centaines et de très nombreux militants. Ça veut dire quoi? Que c'est l'agonie du PS qui continue?
Je crois que ce qui se passe au Parti Socialiste, c'est pas simplement qu'il y a des désaccords de programme. Ce qui se passe, c'est que le Parti Socialiste est progressivement arrivé à être vide d'idées, vide de propositions. Le Parti Socialiste s'est battu pour être un parti de gouvernement et pas simplement pour être un parti de... On pourrait dire un parti de posture, un parti de défense d'idées et en chargeant d'autres de les mettre en œuvre. Mais d'être seulement un parti de gouvernement, c'est à la fois un progrès et un piège. C'est un progrès parce que ça veut dire qu'on veut s'inscrire dans le temps, mais c'est un piège parce que peu à peu, ce projet devient le seul contenu du parti lui-même. Mais aussi bien il faut critiquer cela, aussi bien il faut critiquer que c'est en général, ça n'est pas simplement le Parti Socialiste qui manque d'idées, c'est la gauche en général qui manque d'idées. La gauche, par exemple, en matière de réforme démocratique, on peut dire de refondation démocratique, les idées, elles ne sont pas si nombreuses que cela.
La France Insoumise, par exemple, plaide pour une sixième République.
Bien sûr, mais dire on plaide pour une sixième République, c'est dire il faut faire quelque chose. Mais dire on va rassembler les gens et il faudrait pourrait proposer déjà des choses. Et de la même façon, il ne s'agit pas simplement de « il faut lutter contre le néolibéralisme, certainement », mais de dire aussi quel nouveau contrat social on veut pour aujourd'hui. Au fond, la gauche s'est construite autour de grands projets. Et bien maintenant, elle a le projet de continuer les droits de l'homme, et d'un certain point de vue, on peut dire que le mariage pour tous a été la dernière grande pierre blanche marquée sur ce chemin des droits de l'homme, mais pour redéfinir la question sociale au XXIe siècle, pour refonder la démocratie, et bien là, c'est le brouillard. Et au fond, le Parti socialiste, il est victime de cette espèce d'évidement, et pas seulement d'un espèce d'engourdissement.
Le Parti communiste, un petit mot, parce qu'il y a un événement qui est passé un peu inaperçu dans l'actualité cette semaine, c'est le vote des militants qui ont désavoué l'actuel secrétaire national, Pierre Laurent. Ils ont défendu le texte d'André Chassaigne, tout ça en disant qu'il y avait eu trop de rapprochements avec la France insoumise et que ça manquait d'autonomie. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire du Parti communiste que ça se produit, un tel événement.
Il y a eu souvent des discussions internes, en tout cas depuis, disons, les années 1990. Mais là, qu'il y ait une sorte de remise en cause de la direction, effectivement, c'est relativement nouveau. Mais ça montre aussi que c'est une organisation qui fonctionne avec une démocratie intérieure. C'est grosso modo la base qui élit des instances comme un conseil qui décide. Si Pierre Laurent avait été simplement le chef suprême, eh bien, il n'y aurait pas eu de discussion. Donc on peut dire que ça, c'est le résultat des vicissitudes positives d'une démocratie.
De Fatoumata Diawara, choix musical signé Djoubaka.
France Inter, le 18-20, une semaine en France.
Toujours avec Pierre Rosanvallon ce soir. Ce livre commence donc, Pierre Rosanvallon, en mai 68. Et vous dites, les idées de mai 68 sont restées à quai. Le problème, c'est qu'elles ne se sont pas accomplies. D'où le désenchantement qui a suivi, c'est ça ?
Oui, elles sont restées à quai pour une partie d'entre elles. parce qu'il y a toute une partie des idées de 68. 68, s'il y a un mot qui résume, deux mots qui résument, on peut dire l'esprit des années 60 et 68, c'est les mots d'autonomie et ceux d'émancipation. Et il y a eu des changements considérables. On peut dire que la vie dans les familles, la notion d'autorité familiale, le rapport entre hommes et femmes, la place des enfants dans les écoles, le rôle de la façon d'étudier. Il y a eu quand même des bouleversements considérables qui sont nés de cet esprit de 68 avec ses mots-clés d'autonomie et d'émancipation. Et donner un contenu à cette aspiration à la dignité, à la singularité, au respect de chacun. Et ça, c'est un fil rouge qui continue depuis 50 ans et qui reste bien, bien vivant. Il reste bien vivant parce qu'on voit aussi en permanence qu'il est menacé, dans bien des pays du monde, mais qu'il est menacé ici, tous les jours également. Et c'est pour cela que on voit des pétitions, des manifestations. Il va y avoir les rendez-vous de l'histoire à Blois ce week-end. Ben, des historiennes ont dit, les comptes ne sont pas encore réglés
Pour les femmes.
Pour les femmes. Et donc, ce fil rouge, il continue. Mais il y avait toute une vision des changements aussi de la démocratie et de l'économie qui, eux, n'ont pas vraiment démouché. De la démocratie, pourquoi ? Ben parce qu'à l'époque, on était dans des démocraties, on peut dire, représentatives, très, très corsetées, très, en quelque sorte, encadrées par des partis politiques. Et donc, on pensait que de l'air frais, on aurait l'air frais avec un peu plus d'expression directe, on aurait de l'air frais avec des radios libres, mais au fond, ça n'a pas suffi. On n'a pas repensé vraiment la démocratie, on a voulu simplement l'oxygéner. L'oxygéner, c'était bien, mais il fallait la refonder. Et c'est peu à peu, je dirais maintenant seulement, qu'on commence à voir ce que veut dire vraiment une refondation de la démocratie. Et puis le deuxième point, c'est le changement de l'économie et du social. Et là, le social a progressé un peu parce que on a continué à étendre les droits syndicaux. C'est les accords de Grenelle. Et puis après, ce sera les lois Auroux en 1982, la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, la mensualisation et beaucoup d'autres choses. Mais on était encore dans les années 30 glorieuses. Et donc, on n'avait pas devant nous la révolution de la mondialisation, la révolution financière. Et c'est ce à quoi il faut répondre aujourd'hui. Donc les enjeux se sont déplacés et on n'a pas encore trouvé les réponses.
En tout cas, je renvoie au contenu de notre livre pour voir comment vous avez vécu tout ça, notamment la victoire de la gauche en 80. Vous n'êtes pas allé à la Bastille, j'en dirai pas plus, parce que vous n'aviez pas franchement le cœur à faire la fête, vous, à cette époque-là. Beaucoup d'anecdotes dans ce livre, mais je voudrais qu'on s'arrête deux secondes sur ce que vous appelez le grand retournement, le bouleversement des idées à partir des années 90. Ça vient d'où ça, Pierre-Rosan Vallon ?
Eh bien, ça vient justement de ce que nous évoquions il y a quelques minutes, à savoir cette espèce d'évidement progressif des idées de gauche. Et donc, certains ont pensé que l'avenir était au contraire dans le passé, si je puis dire. Et que l'avenir, c'était de revenir, c'était de se méfier de cette exaltation des droits et de revenir à une vision plus traditionnelle de la société, que l'avenir, ça n'était pas le changement permanent, mais c'était de s'enraciner, de parler d'identité, et que, au fond, on se donnait comme objectif non pas simplement de faire progresser la société, mais de la réancrer dans un passé que l'on mythifie comme étant, je dirais, protecteur et organisateur.
Voilà, et on lira quand vous dites notamment que vous avez l'impression aujourd'hui d'assister à une sorte de révisionnisme inversé. Ce serait trop long de poursuivre sur ce point. Je renvoie pour cela au contenu de votre livre, car il est déjà 18h51 et c'est l'heure des bonnes ondes de Sandrine Houdin, comme tous les vendredis. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, une plongée dans les coulisses de la plus grande scène musicale de France. Plus d'un million de mètres carrés, un public de 7 millions de personnes. C'est la scène du métro parisien, mais évidemment, il faut la mériter.
Il y a encore 20 ans, tout le monde pouvait s'y installer. Il suffisait juste de sortir son pipeau et en avant la musique. En 97, tout change. La RATP décide de faire un tri, ne serait-ce que par respect des oreilles de ses voyageurs. Deux fois par an, elle organise des castings. Vient qui veut, seule condition évidemment, c'est de bien jouer et de bien chanter. Alors ce n'est pas le conservatoire, mais le jury est exigeant. Si on le séduit, on est tranquille, on a son badge, il est nominatif à renouveler tous les 6 mois.
Ce sésame, j'imagine, intéresse beaucoup de monde.
Bien sûr, parce que le métro, c'est l'espoir de se faire remarquer par un professionnel qui passerait par là. Plus de 2000 musiciens postulent chaque année. La régie en écrème déjà pas mal sur vidéo. Elle en accrédite environ 300 chaque semestre.
On rappelle quand même que sont passés par là Kezia Jones, Zaz et bien d'autres. Alors, direction le 11e arrondissement de Paris, où ont lieu les sélections.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Donc là, c'est le groupe Cuatro Caminos.
On est quatre, on fait de la musique cubaine.
D'accord. Le but d'aller dans le métro, c'est quoi pour vous alors?
Quand on fait des concerts, c'est beaucoup des gens qu'on connaît, c'est beaucoup dans nos cercles. C'est pour nous l'occasion de toucher un public qu'on n'aurait pas autrement. Des gens qu'on connaît pas, qui sont pas des amis d'amis, qui sont tout simplement des gens qui sont dans le métro, quoi.
90% des gens, je pense, passent. On n'a rien à foutre, quoi.
Vu que c'est pas nos amis, c'est peut-être plus objectif.
Ok. Vous êtes prêts? Allez.
Ils vont défiler les uns après les autres. Interprétation, composition.
Prêt ?
Tu étais formidable, j'étais formidable.
Ok, quand vous voulez.
Antoine Nazo a fondé les musiciens du métro il y a 20 ans.
On est parti d'un constat tout naturel. Les musiciens, ils existaient dans le métro. Et puis c'était du tout et n'importe quoi. Donc on s'est dit, il faut faire passer les castings.
Parce que ça peut être agréable, la musique dans le métro, comme ça peut être affreux.
Dans les années 80, c'était affreux. Enfin, moi, je suis depuis 1982 à la RATP.
Donc c'est aller vers la qualité pour le voyageur.
Pour le voyageur, pour la RATP et pour les artistes eux-mêmes. C'est les trois acteurs.
300 badges par semestre multipliés par 20 ans, ça en fait des notes à distribuer.
En 20 ans, j'ai vu passer des voix extraordinaires. J'étais bluffé. Des artistes qui sont devenus célèbres aujourd'hui. Hein. Après, on a des choses insolites. Un artiste avec son balai, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il vient faire avec un balai?
Un balai pour le ménage.
Un simple balai de balayeur, avec des sons. Incroyable. Je dis, ça peut plaire au public. Après, j'ai eu un siffleur dernièrement, voilà.
Ça vous amuse?
Ça m'amuse lorsque j'ai des casseroles, oui. Un chanteur qui vient juste avec son portable et qui met la musique du portable sur son oreille et qui se met à chanter, mais... Je peux pas décrire. Franchement, je voudrais bien. C'est franchement inimitable. Je peux pas décrire parce qu'il faut l'écouter. C'est du n'importe quoi.
Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous pincez pour ne pas rire? Vous faites comment?
J'essaye. Quand il passe, effectivement, bon, faut garder son sérieux, mais c'est souvent difficile.
Le plus drôle, ça doit être avant.
Le pire, c'est souvent quand on voit les vidéos des artistes. Ils nous envoient des liens. Des fois, c'est une catastrophe.
Donnez-moi juste un exemple.
On va dire une artiste qui chante faux. Bon, c'est une chose. Mais qui a une chorégraphie et des paroles qui viennent d'un monde qu'on ne connaît pas encore. Merci à tout le monde. Donc on vous donnera une réponse d'ici une dizaine de jours par mail ou courrier.
Pour lui, la réponse était oui. Station Châtelet-Léal avec Vanupier.
Alors, vous, c'est le comble. Vous avez commencé dans le métro, vous faites des scènes et vous repartez dans le métro.
Ouais, je retourne dans le métro quand je fais pas de scène. Parce que c'est l'endroit le pire pour jouer de la musique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de son génial et tout. Donc, si jamais j'arrive à arrêter des gens ici, c'est que ma musique, elle est toujours bien. Donc, ça me rassure énormément. Regardez, là, ils sont en train de passer et ils sont dans leur quotidien, ils ont ce qu'ils ont à faire. C'est un entraînement comme si j'étais basketteur et que je m'entraînais avec des poids aux pieds. Des poids, c'est si on arrive à happer quelqu'un ici, on y arrive partout. Puis voilà, on peut faire connaître notre musique à des gens qui habitent au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, enfin n'importe où. Donc voilà, c'est ce que offre le métro. Donc c'est pour ça que moi j'y retourne.
L'un de vos plus beaux souvenirs?
Un couple qui s'est formé devant moi et qui m'a appelé 2 ans après pour que je vienne jouer à leur mariage. Un truc magnifique, quoi.
C'est important, la bonne musique dans le métro?
Je pense que oui, parce qu'on est stressé dans notre vie quotidienne. Ce laps de temps où on passe, entendre ce genre de musique, c'est juste un cadeau. I know you feel like falling down the road. Baby, it's the way we know. The way we know.
Grâce à Sandrine Audin, vous savez maintenant comment sont sélectionnés les musiciens du métro. Pierre-Rosan Vallon, on aurait besoin d'une heure en plus avec vous. Alors ça tombe bien puisqu'on a le téléphone sonne tout à l'heure pour parler de la démocratie. Mais c'est vrai que vous avez fait tellement de choses. Éditeur, éditorialiste, chercheur, professeur. Vous avez travaillé avec de très nombreux intellectuels. Vous avez enseigné à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes au Collège de France, toujours. Vous avez toujours plein d'idées. Vous avez lancé la vie des idées. Vous avez imaginé aussi raconter la vie avec le Parlement des Invisibles. Vous avez fait vraiment beaucoup de choses. Moi, j'aimerais savoir si vous avez un message à l'adresse des politiques. Quel serait-il ?
Le message, si j'ai un message à l'adresse des politiques, ça n'est pas de, le rôle de l'intellectuel n'est pas de chuchoter des solutions. Il n'est pas un technicien, il n'est pas un technocrate. Je pense que la première tâche du monde politique, c'est d'être à l'écoute de la société. La démocratie, c'est un art d'écoute. Et je pense que aujourd'hui, on pense trop que la démocratie se limite à l'élection. Non, la démocratie, c'est la façon dont une société peut se parler à elle-même. Une société peut se représenter. Une société peut se raconter. J'ai toujours été frappé par un mot de Michelet, vous savez, un grand historien. Il disait en 1848, on ne pourra pas faire, après la Révolution, il disait, on ne pourra pas faire la démocratie et la République tant que nous resterons dans une terrible ignorance les uns des autres. Un des métiers de la politique, c'est justement d'apprendre et d'aider la société à se raconter et à parler elle-même.
Alors, on va continuer ce débat tout à l'heure, Pierre Rosanvallon, puisque la démocratie, justement, comment l'améliorer, ce sera le thème de notre téléphone sonne. Appelez-nous pour cela au standard du téléphone sonne 01 45 24 7000.